de la puissance de Dieu. Nous voulons juste écouter quelques petits témoignages, ce ne sera pas long avant d'écouter le message. Nous venons de vivre, comme je vous ai dit, un temps très fort à Montélimar lors de la dernière convention française. Compassion, après 30 ans. Et nous venons de recevoir sur Internet un magnifique témoignage. Et les deux autres témoignages, merci, un peu plus de son. Et les deux autres témoignages sont dans ce même esprit. Je citerai juste ce passage, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Et voici ce que une dame vient de nous écrire. Elle est venue à notre convention à moitié infirme. Elle ne pouvait presque plus marcher de Dijon jusqu'à Montélimar, 350 km. Les gens sont venus des quatre coins de France. Et elle nous écrit « Depuis plus de 2 ans maintenant, je souffrais de violentes douleurs qui me faisaient hurler et qui peu à peu me rendaient gravataire. À peine 1h30 levée, je devais me recoucher pendant 2 heures et plus. La ronde des médecins, rhumatologues, kinés avait commencé. Mon état s'était légèrement amélioré par la prise de médicaments, mais il a fallu le rajouter des antidépresseurs. Car en plus de vertèbres usées, aplaties, il y avait bien entendu de la déprime. Je ne pouvais jamais travailler, un temps soit peu penché, plus faire de repassage, plus de ménage. Je devais absolument éviter toute fatigue, et c'est seulement ainsi que je m'en sortais. Nous sommes venus à la convention Compassion le samedi, c'était le 22 avril, déjà bien fatigué, après avoir fait 350 km. Et le dimanche matin, à l'hôtel, j'avais beaucoup de mal à marcher. J'avais même de la peine à porter mon sac à main. Et je restais la plupart du temps assis. Ce matin même, j'avais déclaré à un frère en Christ, le pasteur Jean Dunat qui est là présent, rencontré à l'hôtel et qui avait constaté ma difficulté à marcher, je ne refusais pas une parole de guérison, elle a dit, tellement elle souffrait. Et voilà qu'au cours de cette réunion, Dorothée annonce à un moment donné que le Seigneur guérissait une colonne vertébrale de douleur lombaire. J'ai exactement dit cela, et c'était exactement sa situation. C'était exactement mon cas, je souffrais précisément de douleur lombaire, extrêmement violente. Je me suis aussitôt emparée de tout mon cœur de cette guérison. Suite à cette parole de connaissance donnée le matin, le Seigneur m'a touchée. Il m'a guérie. Alléluia, l'après-midi, je pouvais à nouveau me tenir droite pour la première fois depuis 2 ans. Je n'avais plus aucune douleur. Instantané. Je n'ai pas écrit ce témoignage plus tôt, ne voulant pas donner un témoignage de complaisance. Et puis elle explique cela. Aujourd'hui, personne ne me reconnaît. Depuis 15 jours, je me lève sans aucune douleur et je peux à nouveau librement servir et desservir à table. Il y a encore quelques temps, personne ne me laissait me lever, voyant la douleur que cela engendrait. J'ai même encore parfois le réflexe de m'attendre à une douleur quand je suis en mouvement. Mais je considère ma guérison comme effective, ainsi que tout mon entourage. Gloire
à Dieu.
Amen. Et ensuite, Dorothée a encore donné une autre parole de connaissance ce jour-là, disant « Le Seigneur guérit une personne de l'eczéma. » Elle m'a dit, mal placée, « Il va le dessécher. » Depuis 5 ans, je souffre d'un eczéma soigné à la cortisone depuis 3 ans. Rien n'y avait fait. Et là, j'avoue que je n'y croyais plus. Force est de constater que l'eczéma, lui aussi, ça va.
Merci.
Une fois de plus, je peux constater que notre Dieu est fidèle, rempli d'amour, tenant ses promesses merveilleuses. Quand un juste crie, l'Éternel entend. Et il y avait une autre personne au milieu de nous. Qui a crié au Seigneur aussi,
Amen. Parce
que c'est le pasteur Jean Dunat qui va lui-même vous rendre son témoignage, parce qu'il a été touché, il a crié au Seigneur aussi.
Oui, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je me suis fait opérer il y a 5 ans d'une hernie qui me faisait mal, et donc j'étais obligé de passer la table d'opération, cela s'est très bien passé. Mais quand ils ont vu, que je frôlais l'éventration. Alors ils m'ont mis une plaque, et donc tout s'est bien passé. Mais comme cela était un corps étranger, cela m'a fait énormément souffrir. Et pendant 2, 3 ans, même 5 ans, j'ai téléphoné à Dorothée pour prier pour moi. Je retournais voir le médecin qui m'avait opéré en disant est-ce que la plaque avait bougé ou les amis mettent des couches, pas des crochets, des agrafes. Et il m'a dit non, ben, ne revenez plus me voir, tout était. Alors j'ai dit Seigneur, il n'y a que toi qui peux me délivrer, m'enlever ces douleurs. Vous savez, quand j'étais assis, je ne pouvais pas poser les mains sur l'estomac tellement que j'avais mal. Puis bien sûr, tout cela se contagiait dans le ventre, dans le dos. Et puis, donc, il y a un an, à Valence, une parole connaissante de Dorothée. Et vous savez, quand on écoute les paroles, on dit toujours, Seigneur, parle-moi. Et puis, on a tous besoin de cela. Et le Seigneur disait, à travers donc, sa servante, voilà, le Seigneur touche quelqu'un qui souffre et qui a eu un corps étranger. Et c'est ce mot, le corps étranger, qui m'a interpellé. J'ai dit, ça, Seigneur, c'est pour moi. Alors, tu souffres.
La plaque.
Oui, la plaque, voilà. Et ce qui était le plus beau, c'est que le Seigneur dit, maintenant, je mets ma main entre la plaque
et ton corps.
Et mon corps. Oh, j'ai dit, Seigneur, merci. Bon, mais la douleur n'est pas partie de suite. Alors, c'est pour ça que je peux vous dire. Mais j'ai saisi par la foi. J'ai dit, non, ça, c'est à moi. Et au bout de 2, 3, 4 jours, 5 jours, je me suis aperçu que quand je m'asseyais, je pouvais remettre les mains. J'ai dit, merci, Seigneur. Alors, vous savez, ne désespérez pas parce qu'on est un Dieu vivant.
Amen. 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 Parole quand même très spéciale que le Seigneur m'a donnée. Je ne l'ai jamais donnée nulle part ailleurs dans le monde. Que le Seigneur mettait sa main entre le corps étranger et ton propre corps. C'est quand même spécial ça. C'est vrai, hein, mais le Seigneur est bon. Et il y a Jean-Philippe qui a aussi un témoignage à rendre.
Alors moi c'était en fin 2003-2004. Je suis dans un nouveau travail sur Lyon, j'habite à Chambéry. J'avais un travail de la responsabilité, du stress, de la fatigue, et ça a commencé comme ça. Dès le matin, je me réveillais et j'avais du mal à respirer, j'étais comme ça. Dès le début, j'étais comme ça, et jusqu'à. Comme si j'allais avoir un vomissement, sans que ça aille plus loin. Et ça a duré plusieurs mois, et régulièrement, je m'étais habitué à ce phénomène. Et un jour aussi, dans un culte de retour.
À la maison.
Voilà, à la maison. Dorothée, le Seigneur lui a donné une parole, qu'il guérissait le système nerveux d'une personne et que tu n'auras plus d'anxiété. Et je me suis senti interpellé aussi par cette parole. Et pareil, je l'ai scellé sur mon cœur. Et le lendemain, en allant au travail, donc j'appréhendais un petit peu, j'avais un peu peur. Et finalement, ça ne s'est pas fait et je me suis fait aussi violence parce que ça avait tendance à vouloir revenir. Et après, j'ai même plus pensé. Et après, je m'en ai.
C'est parti,
depuis c'est plus jamais revenu.
Alléluia! En entendant tous ces miracles, je pense que la pensée nous vient. Un Dieu vivant comme ça, qui s'intéresse à toi et à moi d'une façon aussi personnelle, on ferait peut-être bien écouter ce qu'il a à dire. Et nous allons écouter le message de la parole de Dieu avec attention. Et après le message, j'ai encore des choses à dire, préparant mon cœur, car le Seigneur va toucher quelques-uns dans mon livre. Alors écoutons la parole de Dieu, ce que ce Dieu-là a à nous dire, personnellement, au travers de la prédication de sa parole.
Et plus nous voyons ce qu'il fait, plus nous sommes touchés par sa grâce. Jamais nous ne nous lassons de voir le Seigneur agir. Jamais. Jamais. Et au contraire, nous n'avons qu'un désir, c'est de nous donner davantage à celui qui s'est donné à nous. Comment pouvons-nous donner si peu au Seigneur quand lui a tout donné? Si nous devons répondre à cette question-là, comment donnons-nous si peu à celui qui a tout donné? Nous ne pouvons pas rester insensibles. S'il a tout donné, c'est que nous devons nous donner aussi entièrement. C'est la réponse normale. Et nous voyons dans Romains 12, un peu résumé ce que je viens de vous dire maintenant, les deux premiers versets que nous connaissons. Romains 12, les deux premiers versets. Il y a là quelques paroles pour chacun d'entre nous et qui peuvent littéralement transformer notre vie. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tous nous désirons connaître la volonté de Dieu. Et bien souvent, notre raisonnement est celui-ci. Quand je connaîtrai la volonté de Dieu, j'obéirai. Et ce passage nous dit exactement le contraire. Sois prêt à obéir et tu connaîtras la volonté de Dieu. C'est pourquoi beaucoup à moi ne mangent plus rien. Moi, j'attends. Et on attend tous, on est là. Qu'est-ce que tu attends? Ah ben j'attends que Dieu me montre sa volonté. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en attendant, on n'obéit pas, on est là, on reste sur nos idées, nos pensées. Ce passage nous montre que si nous voulons connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable, parfaite, alors nous devons apprendre à obéir. L'obéissance nous introduit dans la connaissance. Mais il n'y a pas de connaissance sans obéissance. Très important. Nous mettons la charrue devant les bœufs et c'est pourquoi nous n'avançons pas. Nous voulons que les choses se passent tout de suite. Mais cela ne marche pas comme ça avec Dieu. Il est le maître et nous sommes les serviteurs. Mais à entendre des chrétiens, c'est eux qui sont les maîtres. Et Jésus, c'est leur petit serviteur qui doit faire tous leurs caprices. Et si le Seigneur ne fait pas leurs petits caprices, ils se fâchent, ils boudent, et ils ne sont pas contents. Hein, si c'est ça, eh bien moi j'en vais tout promener. Vous ne me verrez plus, c'est terminé. Ah bon? Mais qui est le maître? Qui est le maître? C'est toi ou c'est le Seigneur? Il faut inverser ses rôles. Si nous voulons qu'il se passe quelque chose. Alors, dans ces deux versets, il y a tant de choses à dire, mais au moins vous donner un peu une pensée principale. On va souligner quelques mots dans ces deux versets. Il est dit, je vous exhorte, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Donc. Soulignez ce mot, donc. Il y a là déjà un message important. Je vous exhorte, donc. Et vous savez que dans l'Épître aux Romains, il y a quatre donc, comme cela. Je les ai notés ici, et c'est le quatrième donc de cet épître. Le premier se trouve dans Romains 3, 20, c'est le donc de la condamnation. Dans certaines versions, il y a car, mais dans d'autres versions, il y a ce mot donc. Donc, personne donc ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voyez-vous, il y a là le donc de la condamnation. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il y a un donc que l'on doit admettre dans sa vie. Personne donc ne sera justifié par les yeux de la loi. Autrement dit, on ne peut pas acheter son salut, on ne peut pas mériter son salut. Encore aujourd'hui, des multitudes croient cela. Vous êtes d'accord avec moi? Des multitudes, j'allais dire des millions de personnes, après 20 siècles de christianisme, on en est encore là. On cherche encore par ses œuvres à payer son salut. Personne donc ne sera sauvé, ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est le don de la condamnation. Ensuite, il y a un deuxième. Romains 5, 1, c'est le don de la justification. Vous connaissez ce verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Mais voyez-vous, mais tout vient dans l'ordre dans la Bible. C'est pas à l'envers. Là, le Seigneur ne met pas la charrue devant les bœufs comme nous. C'est pour qu'on ne sait pas où on en est. À celui qui accepte d'être condamné et qui réalise sa condamnation, alors Dieu dit maintenant, si tu mets ta confiance dans le sacrifice de Jésus, tu peux être justifié, tu peux être pardonné. Mais c'est seulement lorsque nous avons passé par ce don de la condamnation. Si nous n'acceptons pas ce don de la condamnation sur notre vie, il n'y a pas de don de justification. Il n'y a qu'un don qui est le don du propre juste. Pas de la justification, mais du propre juste. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, vous vous souvenez, dans l'Évangile. Je ne suis pas comme ce pauvre pécheur-là. Il est là, celui-là. Il n'osait même pas regarder au ciel. Mais lui, quand il priait, c'est pas au ciel qu'il regardait. Il se comparait à l'autre. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il se vantait. Il pensait qu'il était meilleur que les autres. Il n'a pas passé par ce don de la condamnation et il ne pouvait jamais espérer ce don de la justification. Car Jésus lui-même a dit, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyons maintenant, on va un peu plus loin, le don dans Romains 8, 1, vous connaissez tous ce passage, Romains 8, 1, il n'y a donc, voyez-vous encore un donc. C'est toujours une conséquence. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ici, c'est le don de l'assurance du salut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es justifié, alors ça va plus loin. Tu as une assurance maintenant. Il a porté ta peine. Il a porté ton jugement. Si tu le crois de tout ton cœur, tu ne passeras pas par le jugement. Tu ne passeras pas parce que lui était jugé à ta place. Mais si tu n'acceptes pas son jugement à ta place, qui a eu lieu à ta place, tu porteras ton jugement toi-même. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors maintenant, le don de l'assurance. Voyons, dans tout ce que Paul dit pour en arriver à Romains 12, il y avait tout ça. C'est pour ça que maintenant il arrive. Je vous exhorte donc. Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors maintenant, ce don, c'est le don de la consécration. Une fois que nous avons passé par ces étapes, la condamnation, la justification, de l'assurance, beaucoup de chrétiens restent là. Oh, moi, je suis sauvé, alléluia. Après moi, le déluge, peu importe les autres. Et on s'arrête là. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas utiliser certains chrétiens et même beaucoup de chrétiens parce qu'ils n'ont pas accepté ce don de la consécration dans leur vie. Écoutez-moi bien, ceci est très important. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec le Seigneur. Il y a un enseignement, il y a des vérités. Nous ne pouvons pas sauter par-dessus. Alors si tu dis que tu as compris le don de la condamnation, que tu as compris le don de la justification et celui de l'assurance, tu ne dois pas rester là. C'est pourquoi le Seigneur te dit maintenant, il y a le don de la consécration. Et j'ai noté mon message ici, le titre du message, c'est l'appel divin à se consacrer. C'est un appel divin. Moi j'ai cru que c'était que les prédicateurs qui avaient des appels. Moi, j'écoute, c'était que les missionnaires. Vous, vous êtes missionnaires, ou l'autre est pasteur, évangéliste, c'est pour eux. Non, chacun d'entre nous, nous avons un appel.
Amen.
Et nous le voyons ici, l'apôtre Paul, ses termes sont extrêmement précis, profonds. Et c'est vraiment le cœur qui parle. Je vous exhorte donc, frères, voyez-vous, il se met au même niveau que ceux auxquels il s'adresse. Il y a là quelque chose de très profond. Je vous exhorte donc, à un moment donné, tout ce que nous savons doit aboutir par la consécration. Jusqu'à présent, jusqu'au chapitre 11, l'apôtre Paul, en général, a parlé de la doctrine. Et maintenant, il parle de la pratique que les chrétiens doivent faire de cette doctrine. Vous le savez vous-même, dans pratiquement toutes ses épîtres, l'apôtre commence toujours par une partie doctrinale. Et ensuite, il aborde la partie pratique. Et là, il y a une vérité importante. Vous ne pouvez pas séparer la doctrine de la pratique. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens séparent cela. Aujourd'hui, la doctrine, on n'en parle pratiquement plus. La saine doctrine, combien de chrétiens ne supportent plus la saine doctrine ? Ils vous prennent pour quelqu'un qui juge les autres, qui condamne les autres, et ainsi de suite. La doctrine, la pratique sans la doctrine, c'est l'ouverture à n'importe quelle hérésie.
Voilà. Amen.
Mais la doctrine sans la pratique, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de vous un étudiant, vous savez beaucoup de choses, vous êtes tout le temps en train d'apprendre, mais vous ne mettez jamais en pratique ce que vous savez. Et c'est là que le bât blesse avec beaucoup de chrétiens. Quand vous leur parlez d'une doctrine, « Oh, je sais, comme pour dire, « Ah, ça suffit, hein, on le sait. » Mais quand vous considérez leur vie, vous remarquez qu'ils savent certaines choses, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent. Et Jésus lui-même a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Voyez-vous, dans toute vie chrétienne, comme l'apôtre Paul le précisait bien, il y a la partie doctrinale. Et c'est important, ça vient d'abord. Et cette doctrine, nous devons bien la saisir, l'aimer, la connaître. Car c'est cette doctrine-là qui va influencer notre vie. Si c'est une saine doctrine, nous aurons une saine vie et une saine application. Mais si c'est une fausse doctrine, nous aurons une vie fausse. Car votre comportement, mes amis, qui que vous soyez ici, dépend de ce que vous croyez. Si ce que vous croyez est tordu, bizarre, vous serez bizarre et tordu. Si vous avez une vie dissolue, pour prendre un exemple un peu exagéré, pourquoi certains ont une vie dissolue ? C'est parce que dans leur petite idée, ils ont cette conception de Dieu. Dieu est bon. Vous pensez bien qu'il est amour. Oui, juste pour vous donner un petit exemple de rien du tout. Comme Dieu est amour, alors il me pardonnera toujours. Donc, si je fais quelques petites escapades, si j'ai quelques glissades sur le chemin, cela n'est pas important. Voyez-vous, leur conduite est influencée par leur doctrine. Et votre conduite, mes amis, est plus influencée par votre doctrine que vous ne le pensez.
Amen.
Donc, d'où l'importance, et c'est ce que Paul veut le dire ici, ce donc-là est important. Comme pour dire, vous savez beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses, j'ai la doctrine, mais maintenant il faut que je traduise cela en acte.
Amen.
C'est l'apôtre Jacques qui l'a dit aussi, la foi sans les œuvres est morte. On n'est pas sauvé par nos œuvres, c'est évident. Mais si nous sommes vraiment sauvés, nous devons prouver notre foi par des bonnes œuvres, donc par une vie transformée. Je ne fais pas des œuvres pour être sauvé, je fais des œuvres parce que je suis sauvé.
Amen.
Mais si je n'en fais pas, malheur à moi, c'est que je n'ai pas compris grand-chose. Si ma doctrine ne m'influence pas, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Les deux sont intimement liés. Vous ne pouvez pas les séparer. Et j'ai noté cette pensée, la doctrine doit être suivie par la pratique. Parce que tout privilège engendre des responsabilités. Nous, on préfère les bénédictions, toujours les privilèges. Moi, en Christ, je suis cela. En Christ, je suis cela. Dieu me bénit. On parle que des privilèges. Mais quant aux responsabilités, ça, on a des pertes de mémoire pour ça. Ah, j'ai oublié, pasteur. J'ai oublié que j'avais cette responsabilité. Mais t'en oublierais un peu trop. Mais quant aux privilèges, ça, on les oublie pas. Ah, moi, je connais. Je connais tel verset, ça. Voyez-vous comme il y a un déséquilibre. Je vous exhorte donc, l'apôtre Paul veut dire par là, il faut que ça cesse. Il faut maintenant, il a parlé de 11 chapitres avant, il arrive à une conclusion. Vous savez beaucoup de choses, mais maintenant il faut que ça se traduise en actes. Sinon, votre foi n'est qu'une foi stérile, qui ne sauve personne. N'est-ce pas vrai? Voilà le premier donc, avec son importance. Je vous exhorte donc. Il y a donc une conséquence. Ce que je crois ne doit pas seulement être dans ma tête. Je ne dois pas être un étudiant perpétuel. Je sais. Mais il n'y a rien qui change. Rien qui change. Combien de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils croient, mais leur vie ne change pas. N'est-ce pas une tragédie? Ils mentent, ils volent, ils commettent adultère, ils font n'importe quoi. Vous dites que ça n'existe pas? Mais oui, ça existe. Malheureusement. Et ils sont convaincus qu'ils sont enfants de Dieu. Quel mensonge! Je vous exhorte donc. Paul a parlé pendant 11 chapitres. Il a ouvert son cœur. La doctrine est claire, nette et précise. Et maintenant, il leur dit, attention, il y a un grand danger. Si vous en restez seulement à croire, alors vous êtes sur un chemin glissant. L'apôtre Paul, quand nous le voyons bien souvent dans sa doctrine, dans ses commentaires, il nous emmène au ciel. Mais il y a toujours les pieds sur la terre. À un moment donné, il nous ramène toujours sur nos responsabilités personnelles. Amen. C'est le premier point, mes amis. Je vous exhorte donc, attention, la doctrine que nous connaissons, si nous ne la mettons pas en pratique, alors c'est quelque chose qui nous condamne finalement. Un jour, cette parole même que nous disons « je connais » et que nous ne mettons pas en pratique, c'est cette parole qui nous condamnera devant Dieu.
Amen.
Car le Seigneur te dira « tu connaissais, pourquoi tu ne l'as pas mis en pratique ?» Parce que à tout le monde, tu as dit que tu connaissais. Mais là-haut, ça ne va pas marcher pareil. Là-haut, ici, ça passe. On peut dire un peu ce qu'on veut, à l'un ou à l'autre, n'est-ce pas vrai? Mais là-bas, ça ne passera pas. Le donc de la consécration. Je dois traduire ce que je sais.
Amen.
Dans une vie pratique. Il faut maintenant que ma foi porte du fruit. Qu'il y ait des conséquences, qu'il y ait quelque chose qui change. Paul lui-même le disait, qu'on ne doit pas se rassembler pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Parce qu'on peut prendre l'habitude, n'est-ce pas vrai, de dire là-haut, on écoute un beau sermon, tout le monde est bien gentil, et puis après on s'en va, et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. N'est-ce pas une tragédie? Certains chrétiens, après 40 ans de conversion, sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et c'est quelque chose qui était sur le cœur de Paul. Il leur a dit, vous avez de grands privilèges. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi des responsabilités. Vous avez des responsabilités. Et un jour, vous aurez à rendre compte de ces responsabilités devant Dieu. Amen. Voyons maintenant un deuxième mot. Je vous exhorte. Tout à l'heure, on a souligné « donc ». Maintenant, on va souligner « exhorte », le verbe « exhorter ». Je vous exhorte. Là, l'apôtre dit encore quelque chose de très important. Et il ne dit pas « je vous commande ». Il dit « je vous exhorte ». Il ne dit pas comme Moïse l'a fait lorsque la loi a été donnée, je vous commande comme Moïse d'obéir à la loi, non. Il parle d'une exhortation. Le verbe exhorter ici, dans le texte grec à cette pensée, c'est recommander vivement avec insistance. C'est comme si Paul disait, je vous recommande maintenant, au vu de tout ce que Dieu a fait, je vous recommande avec insistance de consacrer maintenant votre vie au Seigneur. Voyez-vous, c'est comme s'il disait aux chrétiens, il leur dit, frères, il leur dit, vous avez reçu beaucoup, Mais maintenant, il faut que vous puissiez faire quelque chose. Non pas parce qu'on vous le demande, mais il faut que ça vienne de vous-même. Vous voyez, c'est là-dessus que le mot exhortation veut dire ça. C'est une recommandation vive. On désire vivement que l'autre fasse un geste, réponde. Et il utilise vraiment l'amour pour cela. Il veut toucher la corde sensible. Et on va voir, par les compassions de Dieu, on va voir quelle corde il utilise. Il utilise les compassions. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais d'abord, je vous exhorte. Donc, comme pour dire, je vous exhorte vivement. Vous devez répondre à cet appel. Et il est là, il essaye de toucher cette corde sensible afin que chaque chrétien réponde d'eux-mêmes. Car tout ce qu'un chrétien fait, parce qu'il est forcé, ça ne tiendra pas. Si vous faites quelque chose parce que je le dis ou quelqu'un d'autre le dit, ça ne tiendra pas. Et c'est pourquoi Paul veut toucher la corde sensible et dire à ces chrétiens, si vous, de vous-même, vous ne répondez pas spontanément, ça ne tiendra pas. Je vous exhorte, il ne dit pas je vous commande, mais je vous exhorte. Il essaye de toucher. Et malheureusement, beaucoup sont insensibles. Et cependant, le Seigneur attend de vous et de moi ceci. S'il a fait de grandes choses dans ma vie, alors je dois répondre moi-même, spontanément, sans aucune pression de Pierre ou de Paul. Cela doit venir de moi-même. Combien de chrétiens, vous devez toujours les pousser ou les tenir, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens wagons. Des chrétiens wagons. Il y a peu de chrétiens locomotives. Locomotive à la tête. Ils vont. Beaucoup de chrétiens wagons, ils sont là à la cuvelle derrière, ils se laissent aller. Ils se laissent avancer comme ça. Alors, si la locomotive va là-bas, gauche, ils suivent. Voyez, ils se laissent aller. Et voilà. Ils ont pris une habitude, un petit train-train. On est dans les trains. Un petit train-train, tranquille. Et on se laisse avancer, on regarde le paysage, oh il est beau ce paysage, c'est beau, oh c'est très beau vous savez, magnifique. Oui, pour faire des éloges, ils sont formidables pour ça. Pour faire des éloges, alors ils sont les premiers, tout est là, merveille. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on s'en va et on ne prend jamais la décision de mettre en pratique. Je vous exhorte, comme pour dire, je vous recommande vivement. Il faut que quelque chose change. C'est pas le tout de dire oui. D'accord. Il faut dire maintenant, je veux obéir. Tu sais beaucoup de choses, mais est-ce que tu obéis dans ce que tu sais? Est-ce que tu obéis vraiment? Et c'est là le problème avec beaucoup de chrétiens. Je vous exhorte. Nous ne servons pas le Seigneur afin de recevoir ses grâces, mais parce que nous les avons déjà reçues. Nous le servons par amour et pour lui montrer notre reconnaissance. Amen.
Amen.
Je vous exhorte vivement. Paul ouvre son cœur. Il ne peut pas forcer. Tout ce qu'on force ne tient pas. Tout ce qu'on impose ne tient pas. Ça tient un temps. On dit, oh c'est formidable, mais non. Cette personne le fait pour vous faire plaisir. Mais tant qu'on ne fait pas quelque chose pour faire plaisir au Seigneur, pour obéir au Seigneur, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Je vous exhorte donc, je vous recommande vivement de répondre à cet appel. Paul ne les instruit pas seulement, il les exhorte. Attention. Une grande différence entre instruire et exhorter. Il y a un temps pour instruire, vous êtes d'accord avec moi? Il y a un temps pour l'instruction, mais là, c'est plus de l'instruction, c'est de l'exhortation. Mais comme s'il voulait un peu les secouer. Attention, on vient de lire, je vous ai fait lire 11 chapitres, vous venez de comprendre ces chapitres maintenant. Il faut faire quelque chose.
Ça ne peut pas durer infiniment comme ça. Si cela ne me touche pas, me laisse indifférent ou me grossit la tête. Mais le cœur est désespérément sec. Je vous exhorte, et Dieu nous exhorte, vous exhorte, cet après-midi, afin que vous puissiez répondre de vous-même. De vous-même. Le Seigneur lui-même ne forcera jamais personne. Si vous ne le faites pas de vous-même, il n'y aura jamais de ministère pour vous ou un travail sérieux de la part du Seigneur. Un travail sérieux vient quand quelqu'un réalise ses responsabilités et dit maintenant, ça y est, ça suffit. J'ai assez tourné en rond. J'ai assez pensé à moi-même. Maintenant, il faut que j'agisse. Malheureusement, il y en a qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Et c'est là leur problème. Ils prennent des décisions, mais les mauvaises décisions, de ne rien décider. Prends la décision de te décider,
amen,
une fois pour toutes, et de changer. Me voici, Seigneur, es-tu satisfait de ta vie? Es-tu satisfait comme cela? Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Il n'utilisera pas la personne à qui on doit constamment forcer les choses, quémander, exiger. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu, il vient. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Je suis prêt. Nous voici. Il n'y a personne qui vient le forcer. Le cœur a été touché. Et la volonté aussi.
Amen.
C'est ceux-là qui iront loin. Et que Dieu pourra utiliser magnifiquement. Amen.
Amen.
Mais il faut cesser de dire je sais, je sais. Et on ne sait pas qu'on est à côté de la course. Parce qu'on refuse ses responsabilités. Et laissez-moi vous dire une chose. C'est quand on accepte des responsabilités qu'on commence vraiment à grandir et à mûrir. Tant qu'il n'y a pas de responsabilité, vous êtes un fruit sec, ouvert. Quand quelqu'un veut manger après à côté de vous, il y a l'amertume, l'acidité. Les chrétiens acides, ça n'existe pas. Dès que vous êtes un peu avec eux et qu'ils ouvrent la bouche, vous sentez cette amertume, cette acidité qui sort. Rien n'a mûri dans leur vie. Rien n'a mûri. Pourquoi? C'est les autres qui sont là, qui doivent être toujours à son service. Un jour, au début de ma vie chrétienne, après ma conversion, quand j'ai vu beaucoup de chrétiens dans l'église où j'allais, qui tournaient tous un peu autour d'eux-mêmes, à un moment donné, j'ai eu cette pensée, j'étais tout jeune converti. Je me suis dit, Sam, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça que tu vas faire comme vie chrétienne? C'est ça que tu veux? Tourner autour de toi-même comme ça? Et puis, venir simplement avoir la réunionite? Et puis, rien faire pour ton sauveur, pour celui qui t'a racheté. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai pris une décision. Et cette décision, elle tient toujours. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'elle tiendra jusqu'à ma mort. J'ai dit maintenant, peu m'importe ce que les uns ou les autres font ou ne font pas. Moi, je veux me livrer à toi. Et je veux que tu m'utilises. J'étais qu'un jeune homme pauvre, triste, un jeune homme faible, pas grand-chose. Et je me demandais ce que le Seigneur allait pouvoir faire de moi. Mais je vous assure, quand les prières ou les désirs sont profonds et sincères et les décisions sont réelles, Dieu peut transformer n'importe lequel d'entre vous et faire un instrument à sa gloire. Car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, afin que toute la gloire en revienne à Dieu.
Amen.
Amen. Soulignons un peu le troisième mot déjà clignoté ici, c'est le mot compassion. Je vous exhorte donc, frères, parler compassion de Dieu à offrir. Et ce mot compassion, soulignez-le bien. Dans le texte grec, je lisais certains commentaires, il y a la pensée de miséricorde dedans. Et un jour, j'avais lu cette pensée, la grâce, c'est un don que vous accorde et que vous ne méritez pas. Tandis que la miséricorde, c'est Dieu qui vous épargne un jugement que vous méritez. Vous avez vu la différence? La grâce, Dieu m'accorde quelque chose que je ne mérite pas, et la miséricorde, Dieu m'épargne un jugement que je mérite. Et ici, Paul veut dire ceci, écoutez-moi bien, je vous exhorte donc par les miséricordes de Dieu, par la compassion. Autrement dit, il voulait dire, quand je vous ai écrit ces 11 premiers chapitres, et vous avez vu d'où le Seigneur vous a sorti, d'où le Seigneur est venu pour vous chercher, vous pardonner, vous sauver, vous libérer. Sa miséricorde a été grande envers vous. Et beaucoup d'entre vous ici, vous pouvez le témoigner. Dieu vous a sorti de la boue du péché, de l'esclavage, de beaucoup de choses. Et c'est comme si Paul disait, je vous exhorte par cette miséricorde de Dieu, rappelez-vous un peu tout ce que Dieu a fait dans votre vie, d'où il vous a sorti. Je lisais, j'ai noté plusieurs passages ici, mais il y en a plusieurs. Ceci pour dire que nous devons nous rappeler, c'est Paul qui voulait dire cela, rappelez-vous d'où le Seigneur vous a tiré. Et afin que vous puissiez, en réponse à tout ce qu'il a fait, lui consacrer votre vie. On ne peut pas rester insensible quand on réalise tout ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut pas rester les mêmes. Amen. J'ai noté ici une pensée que vous connaissez tous de Charles Studd, cette fameuse pensée du fameux missionnaire, et qui a dit ceci un jour, « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a pas de sacrifice pour... il n'y a pas de sacrifice trop grand de ma part pour lui. » S'il est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a pas de sacrifice trop grand pour lui. Il a compris quelque chose. Avons-nous compris cela? Si Jésus est Dieu, qu'il est mort à votre place, alors, mes amis, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour lui. C'est ce que Paul voulait dire par les miséricordes de Dieu. En vue de tout ce qu'il a fait, nous oublions bien souvent d'où le Seigneur nous a sortis. Et nous risquons de devenir des propres justes en négligeant tout cela. Et Paul dit et vous dit, regarde tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand par les compassions de Dieu. Et Paul voulait leur dire, ben, dans les 11 premiers chapitres, je vous ai parlé de toutes ces compassions. Et Romains, dans juste le passage que vous connaissez tous bien, Romains 8, 28, qu'est-ce qu'il est dit? 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ils finissent là, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les puissances, ni les hauteurs, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle parole! Mais dans toutes ces choses, tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'Esprit de Dieu, il dit aussi, rend témoignage à notre esprit que nous sommes Abba, que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit en nous crie, Abba Père. S'il y a cette relation filiale, s'il y a cet amour manifesté à notre égard, comment pouvons-nous rester insensibles et ne pas faire quelque chose? Et Paul, voilà ce qu'il veut dire. Je vous exhorte vivement, vivement à... par les compassions, à cause de sa miséricorde à ton égard, qui a été grande, eh bien de faire quelque chose, de te consacrer, vraiment. Amen. Un jour, j'avais lu le témoignage d'une prostituée. Quand elle a entendu pour la première fois l'Évangile, elle a dit, si ce Jésus-là, qui est Dieu, est mort pour moi, pauvre pécheresse, à partir de maintenant, c'est fini, je ne suis plus la même personne. Je veux vivre pour celui qui est mort pour moi. Les prostituées nous devancerons. Qui l'a dit? C'est Jésus. S'il est mort pour moi, alors je veux vivre pour lui. Alors je ne serai plus la même personne. Mais nous, on est là, insensibles. Jésus, à un moment donné, vous avez remarqué, quand on joue de la flûte, personne ne danse. Quand on joue une complainte, personne ne pleure. Insensible. L'insensibilité, c'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas vrai? Et c'est ce que Dieu veut vous dire cet après-midi. Par la bouche de Paul, je vous exhorte vivement. Il veut parler à notre cœur, il veut nous toucher. Si notre cœur n'est pas touché, alors rien ne sera touché. Dieu ne pourra jamais nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Rappelle-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Rappelle-toi. Et ne vis plus cette vie égoïste. Si tu es mort pour moi, alors je veux vivre pour toi. Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que vous voulez le dire? Sérieusement, sincèrement, profondément. Si vous le faites, alors le don de la consécration vous conduira plus loin avec Dieu et vous permettra de vivre une vie chrétienne qui porte du fruit et un fruit qui demeure. Amen.
Amen.
Les compassions. On en voit un autre mot, offrir, par les compassions de Dieu à offrir. Soulignez maintenant le verbe offrir. Offrir. Le verbe offrir en grec signifie s'offrir, se donner une fois pour toutes. Il est question ici de sacrifice dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand un sacrifice était offert, c'était une fois pour toutes. Et là, Paul veut dire offrez. À offrir vos corps. La consécration que Dieu vous demande, c'est une consécration qui doit se faire une fois pour toutes à un moment donné, mais en profondeur, en réalité. Et c'est là que beaucoup flanchent, parce que leur consécration n'est qu'à moitié. Et vous savez que quand on offre un sacrifice, le sacrifice qui était offert devait être sans défaut. Sans défaut. Autrement dit, ce qu'on offrait à Dieu à ce moment-là devait être parfait, dans le sens que ça devait être le meilleur. Et Dieu attend cela de vous. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Et là, Paul veut leur dire, mais une fois pour toutes, maintenant, il faut prendre la décision de vous donner entièrement. Et tant que vous ne le faites pas, vous allez tourner en rond. Vous savez, on peut offrir beaucoup de choses à Dieu, mais bien souvent, la dernière chose qu'on ne veut pas offrir à Dieu, c'est nous-mêmes. Vous avez peut-être offert beaucoup de choses à Dieu. Vous vous en vantez peut-être. Et vous pensez que vous êtes peut-être meilleur que quelqu'un d'autre, parce que l'autre n'a pas offert à Dieu ce que vous avez offert. Mais Dieu vous dit, c'est pas cela que je te demande. C'est toi-même. C'est toi-même que je veux. Tu dois t'offrir toi-même. Et une fois pour toutes, c'est la force du texte grec, à offrir. Et quand cela se passe, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se reconsacrer. Certainement. Mais ce n'est plus la même chose. Tandis que là, autrement, il y a beaucoup de chrétiens qui se reconsacrent tout le temps. Mais il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais consacrés à fond la première fois. On retient toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on garde. Ah oui, on pleure sur son péché. On fait beaucoup de choses. On a l'impression, rose. Ah, mais cette fois, ça va marcher. Ça va marcher cette fois. 15 jours après, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Mais comment ça se fait? Tu pleurais, tu faisais tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Parce qu'on ne sait pas donner 100%. Se donner à 99%, 99% n'est pas suffisant. Dieu n'est pas satisfait avec cela. C'est le 1/100 qu'il te demande. Pourquoi gardes-tu ce 1/100? C'est cela qu'il me faut. Car si tu n'offres pas ce 1/100-là, tu seras malheureux. Et je ne pourrai pas t'utiliser. Mais c'est quand on se donne à fond, complètement, qu'à ce moment-là, Dieu peut entreprendre quelque chose de merveilleux dans notre vie. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait, mais cela veut dire qu'on s'est maintenant livré entre les mains du Seigneur. Entièrement, totalement, définitivement.
Combien se donne pour qu'un jour, un mois, un an, il n'y a plus rien du tout après. Dès qu'il y a les épreuves, les difficultés, la maladie, la mort et je ne sais quoi, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et pourtant, ils sont venus, ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont fait beaucoup de choses, mais il n'y a rien du tout. Ils ont tout donné, sauf se donner eux-mêmes. C'est toi-même que Dieu veut. Veux-tu te courber devant lui et venir à l'autel? C'est à l'autel que tout commence dans la vie chrétienne. Si ton autel n'est pas en ordre devant Dieu, tout le reste dans ta vie chrétienne sera en désordre. Si l'autel est en ordre, alors tout le reste de la vie chrétienne portera du fruit et sera une bénédiction. Où en est ton autel? Où en est ta consécration? Où en es-tu? À offrir. On doit offrir le meilleur. Hein? Un agneau borgne. Une colombe qui manquait une aile. Vous croyez que le Seigneur l'acceptait? Ça ne marchait pas. Tandis qu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi avec Dieu. On peut faire n'importe quoi. Et on se croit encore spirituel. Je vous exhorte vivement par les compassions, par les miséricordes. Dieu a bien souvent retenu son jugement contre toi dans sa miséricorde. S'il n'était pas miséricordieux, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là, moi le premier. Vous ne seriez pas là. Et quelle a été la réponse à cela? Quelle a été la réponse? Rien du tout. Une petite larme pendant 15 jours, et après c'est terminé, on n'en parle plus. On n'en parle plus, on oublie tout. On oublie tout. On oublie tout. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Gloire au Seigneur. Peut-être une dernière pensée. Nous allons souligner peut-être deux encore. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Soulignez ce verbe conformer. Il y a là quelque chose de très important aussi avec le verbe conformer. Ne vous conformez pas. Dans le texte grec, c'est un impératif présent. Un impératif présent. C'est pas si tu as le temps, tu peux t'en passer. Paul dit, c'est un impératif. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et que veut dire ce verbe conformer? J'ai noté quelques pensées ici. Il faut maintenant, c'est comme si Paul le disait, il faut maintenant cesser de vivre selon le style de vie du présent siècle mauvais. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Le mot utilisé par Paul ici est ce qui est en rapport avec la forme extérieure qui change d'année en année et de jour en jour. Et d'un autre commentateur, j'avais lu ceci. Ainsi, Paul voulait dire, n'essayez pas d'adapter votre vie au mode de ce monde. Ne soyez pas comme le caméléon qui s'adapte à la couleur de son environnement. C'est ce que Paul voulait dire. Ne faites pas le caméléon. Quand vous êtes avec une couleur bleue, vous êtes bleu. Quand vous êtes avec la couleur blanc, vous êtes blanc. Quand vous êtes avec la couleur rouge, vous êtes rouge. Quand vous êtes avec les noirs, vous êtes noirs. Est-ce que c'est ça? Paul voulait dire, c'est ça? C'est ça qu'il voulait dire. Arrêtez de faire le caméléon. Arrêtez de vous adapter à la mentalité du monde qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est à la mode dans l'Église de venir maintenant faire comme le monde. On en est là. C'est maintenant un enseignement dans certaines églises et dans certains livres. C'est à la mode maintenant. Et si vous ne faites pas comme le monde, vous n'êtes pas dans le coup. Ah bon? Qui n'est pas dans le coup? Cessez d'être un caméléon, disait Paul. Arrêtez de vous adapter un peu à la couleur. Là, c'est bleu. Ah, voilà, on est bien. Le compromis, ce sont des experts en compromis. Ils ont une expertise très raffinée en plus. Ils savent très bien faire. Ils savent très bien. Ils trouvent toujours les mots pour s'en sortir. Ce sont des diplomates.
diplomate, une diplomatie, il s'en sort toujours. Toujours. Mais Paul dit, attention, ne vous conformez pas. C'est un impératif. Aujourd'hui, on lui dit, au contraire, tu dois faire comme le monde maintenant, si tu veux attirer le monde. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit que si nous voulons attirer le monde, il faut se séparer du monde pour que les autres voient que nous avons un autre état d'esprit, que nous avons une autre mentalité, que nous avons d'autres valeurs. Amen. Ne vous conformez pas, c'est un impératif. Ah oui, moi, faut pas aller trop... Ah bon? Mais Paul, il dit, c'est pas comme ça. C'est un impératif. Ah oui, mais je fais quand? Non, je pense pas. Non. Et voilà, et on est là dans nos discussions. On n'en sort pas. On n'en sortira jamais. Est-ce que tu es comme un caméléon? Quand tu es avec des païens, tu es presque une païenne. Quand tu es avec quelqu'un qui fume, allez donc, donne-moi ta cigarette aussi, et je vais la fumer avec toi. Après, vous allez lui parler du Seigneur après? Le Seigneur est merveilleux, il délivre du péché, des passions. Ah bon? Et toi, ta passion, elle est où? T'es pas délivré de ta passion? Vous pouvez parler de délivrance de passion quand vous faites cela? Vous n'avez plus de témoignage. Vous n'avez plus rien du tout. Bon, pour terminer, le dernier mot. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soulignez là le mot transformés. Transformé. Et le mot grec, vous le savez certainement, du mot transformé veut dire métamorphosé. Soyez métamorphosé. Métamorphosé. Et le mot métamorphose, vous savez ce qu'il veut dire? Je regardais dans le dico un peu ce matin avant de venir ici. Métamorphose, changement radical d'une personne au point qu'on ne la reconnaît plus. Vous voyez ce que Paul veut dire? Mais soyez métamorphosé dans votre façon de penser, dans votre intelligence. Et si la pensée change, la vie change, la conduite change. Et c'est ce que Paul dit. Vous devez être métamorphosé. On ne doit plus vous reconnaître. D'après ce que vous étiez avant, est-ce qu'on peut dire de vous, il n'est plus le même? Elle n'est plus la même. Je ne la reconnais pas. Il n'est plus le même, la même. C'est un beau compliment si on dit cela. Même si on se moque de vous, c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Soyez métamorphosés. Et je termine juste par un passage. Vous savez, dans 2 Corinthiens 3, 18, le changement, comment est-ce qu'il s'opère? J'ai noté, il y a plusieurs changements. Donc, d'abord, par le renouvellement de notre intelligence. Vous voyez, il est dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Nos pensées doivent être changées, transformées. Une fois, j'avais lu cela d'un prédicateur qui disait « Beaucoup de chrétiens ont un cœur neuf, mais une vieille tête. » Beaucoup de chrétiens ont un cœur tout neuf, mais la tête est toute vieille. Ils pensent encore comme s'ils étaient païens, comme s'ils étaient inconvertis. Il y a toujours les mêmes idées, il n'y a pas eu de renouvellement dans la pensée, dans l'intelligence, il n'y a pas de renouvellement. Vous les voyez parler, c'est toujours le monde qui est là. Les principes du monde, les idées du monde. La ressemblance au Seigneur exclut toute ressemblance au monde. Plus nous désirons le Seigneur, moins nous aurons les désirs pour le monde. Plus nous pensons à l'éternité, moins nous serons obsédés par le siècle présent. Plus nous pensons au jugement de Dieu, moins nous serons esclaves du jugement des hommes.
Amen.
Amen. Amen. Métamorphosés, renouvelés d'abord dans notre intelligence. Amen. Ensuite par la parole de Dieu. Vous savez, il y en a un, Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne? Étienne lui aussi, il était même métamorphosé dans Étienne, chapitre acte 6, verset 15. Il est dit à un moment donné que son visage leur parut comme celui d'un ange. Comme celui d'un ange. Il y avait un rayonnement. Transformé. Et le mot transformé veut dire aussi transfiguré. Transfiguré. Et qui a été transfiguré encore? Il y a Étienne. Et pourquoi il a été transfiguré lui? Vous remarquez, acte 7 après. Ça c'est acte 6 et acte 7. Tout un chapitre sur une prédication qu'il fait avec la connaissance de la parole de Dieu. Il avait une connaissance extraordinaire de la parole de Dieu. Et une des sources merveilleuses de renouvellement, de transfiguration, de transformation dans notre vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Pas seulement la méditation, mais aussi la mise en pratique de cette parole. C'est important, d'où l'importance de la prédication. Il faut qu'elle soit entendue, mais aussi mise en pratique, sinon ça ne sert à rien. Mais elle est importante. Étienne était cet homme-là. Pourquoi son visage était-il comme un... Parce que c'est ses pensées étaient des pensées de Dieu. La parole de Dieu l'animait au plus profond de lui-même. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà où nous devons être renouvelés dans nos pensées. Par la parole de Dieu et ensuite par la prière et la communion avec Dieu. Il y a une transfiguration qui se passe. Vous vous souvenez quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration? À trois endroits, il est parlé qu'il a été transfiguré. Et dans Luc 9, 29, il est dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage se changea. Et dans les autres évangiles, il est dit, il fut transfiguré devant eux, transfiguré. Et pourquoi fut-il transfiguré? Parce qu'il était en prière. C'est celui qui est en prière et qui est en communion avec Dieu qui verra cette transfiguration, cette transformation radicale de son être. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas cette communion intime, personnelle avec Dieu, jamais vous n'aboutirez à cette transformation, parce que cette transformation vient de Dieu. Et si nous ne vivons pas près de Dieu, en obéissant à Dieu, jamais il y aura une transformation par la prière. Et une quatrième, un moyen pour être transformé, 2 Corinthiens 3:18, et je termine avec cela. Or le Seigneur c'est l'Esprit, verset 17. Et là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, nous tous donc le visage découvert, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Et certaines versions est, nous tous dont le visage découvert contemplons le Seigneur. Nous sommes transformés, voyez-vous le verbe transformer ici, en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit. Comment la sommes-nous transformés? En contemplant. Donc l'adoration. L'adoration. Voilà pourquoi nous prenons du temps pour adorer. Ce n'est pas une perte de temps. L'adoration, celui qui adore gagne du temps. Et moins tu adores, plus tu perdras du temps dans ta vie spirituelle. Et tu verras qu'en adorant, tu commenceras à gagner du temps. Tu commenceras à faire des pas de géant. Ne te moque jamais de quelqu'un qui adore son Dieu. Ne te moque jamais de lui. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Et je prenais dans le dictionnaire ce verbe contempler. Contempler, qu'est-ce que ça veut dire? Considérer attentivement, s'absorber dans l'observation de quelque chose, regarder avec admiration, c'est la communion de l'âme avec Dieu. Vous voyez, la contemplation, ça ne se fait pas en appuyant sur le presse-bouton. Seigneur, j'appuie là sur le bouton, il faut que ça marche tout de suite. Il faut que tu me transformes tout de suite, ça ne marche pas comme ça. Et beaucoup veulent être transformés comme ça, en appuyant sur un bouton. Mes amis, ce n'est pas comme ça que ça marche. La transformation, nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés. La contemplation prend du temps.
Amen.
Prend du temps. Prend du temps. Prend du temps. C'est pour ça qu'on prend du temps. Et vous devez prendre du temps pour contempler, adorer le Seigneur. Et c'est alors que la transformation s'opérera au plus profond de vous-même. Quand Moïse est dû monter sur la montagne, pendant 7 jours, il n'y a personne ne lui a parlé. Il n'y avait rien du tout. C'est le 7e jour que le Seigneur est venu. Commencer à lui parler. Tout cela pour lui apprendre à apprécier la présence de Dieu. Apprécier la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence-là, dans cette contemplation merveilleuse de notre Sauveur, que nous sommes transformés à son image. On a reconnu des apôtres, comment? Qu'ils avaient été avec le
Seigneur.
Regardez, ils ressemblent à leur maître. Et la parole de Dieu dit, ils avaient été avec le Seigneur. Puissions-nous, mes amis, être transformés radicalement. Ce n'est pas la méthode couée, c'est la méthode divine. Et il faut prendre du temps. Si le temps pour vous, c'est quelque chose, si vous prenez plus de temps pour les choses du monde que pour les choses du Seigneur, jamais vous n'expérimenterez cette transformation, cette transfiguration radicale. À un moment donné avec le Seigneur, nous devons mettre nos montres de côté. Et dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Maintenant, ça suffit. Ça ne marche pas en 5 minutes avec le Seigneur. Il faut prendre le temps. Prenez-vous le temps. Prenez le temps. Ne regardez pas toujours à votre montre. Comment se fait-il qu'avec le Seigneur, on regarde toujours la montre? Et quand on est dehors dans quelque chose qui nous plaît, on met la montre de côté. On peut rester 10 heures. 10 heures. 10 heures. Et avec le Seigneur, 5 minutes, c'est de trop. J'ai un invité à la maison. Ah oui? Et le Seigneur, c'est pas un invité? Le Seigneur l'a invité, lui, il n'est pas grand-chose. C'est comme si on lui disait, Seigneur, toi, tu sais pas, j'ai un autre invité qui est plus important que toi, il faut que j'aille là-bas. Toi, ben, hein, on verra une autre fois. C'est un mépris, c'est déshonorer le Seigneur. Mes amis, Moïse, 40 jours et 40 nuits sur la montagne, c'est alors qu'il fut transfiguré. Prenez du temps avec le Seigneur. Contemplation, l'adoration est plus importante que vous ne le pensez, mais une adoration en esprit, en vérité, pas avec le péché dans sa bouche ou dans son cœur, pas la désobéissance dans sa vie, mais en marchant dans la lumière, dans la vérité et l'obéissance. Et vous verrez votre vie transformée, et à partir de ce moment-là, Dieu vous utilisera, parce que les autres ont besoin d'avoir des vies transformées.
Amen.
Pourquoi certains témoignages ne portent pas, n'ont pas d'impact? Il n'y a aucun changement. La métamorphose n'y est pas. On est encore comme le monde. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Soyons différents. C'est ce que le Seigneur veut. Et vous verrez combien votre vie sera utile au Maître, réjouira le cœur du Maître. Et son nom sera glorifié. Veillez à l'autel. Si votre autel est en mauvais état, tout le reste de votre vie sera délabré. L'autel, là, c'est 100%. Il s'est donné 100%. Tu dois te donner en retour 100%. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est la conclusion et la conséquence logique.
Amen.
Étant donc, je vous exhorte donc. Le quatrième, ça termine. Maintenant, c'est la consécration. Je sais, mais maintenant, je veux. Obéir. Puissions-nous le faire. Une fois pour toutes, livrons notre vie. Il y aura des reconsécrations, mais tant qu'il n'y a pas cette capitulation totale, une première fois, où on dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est fini, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Pour la mort ou la vie, je veux te suivre. Là, vous verrez que le Seigneur commencera à entendre. Le ciel s'ouvrira et il vous conduira. De victoire en victoire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, mais le victorieux sera avec vous, et ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes appelés à une vie de consécration.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Et nous donne de prendre nos responsabilités. Mm-hmm. Amen.
Amen. Je propose que nous nous levions 5 minutes. Si vous permettez. Le Seigneur vient de nous parler, je pense, à chacun d'entre nous, pour prendre une décision. Le Seigneur attend une réponse de nous après un tel message, que nous ne puissions pas rester les mêmes, que nous sachions mettre du temps à part pour Dieu, même si c'est 5 minutes de plus ou 10. Mais dites-moi, pour quelqu'un qui nous a réservé l'éternité de gloire, nous ne saurions pas, nous sommes là, c'est de trop, c'est trop long. Comment? Comment pouvons-nous, avec un Seigneur aussi merveilleux, calculer de la sorte? Je pense qu'il y a des péchés comme cela aussi, c'est un péché. C'est un manque de gratitude, c'est de l'ingratitude. Vous savez, il faut savoir se remettre en question, de temps en temps. Je me le dis à moi-même, merci. Moi aussi. Ne pensez pas que le Seigneur m'arrange toujours, hein. Il me parle aussi, il me reprend aussi. Oh Seigneur, nous voici devant toi, assez de paroles. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons d'entendre.
Amen. Amen.
Car sinon, cette prédication aura été vaine. Et il y en a assez déjà pour mettre en pratique. Seigneur, nous voici pour t'obéir. Tu as 1000 façons de nous parler. Et là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très précis que nous devons revoir chacun de nous, Seigneur. Oh, combien nous te demandons pardon. De ne pas prendre assez de temps pour être avec toi, Maître.
et Seigneur. Toi qui es le roi des cieux et devant lequel un jour nous aurons des comptes à rendre pour le temps que nous avons passé dans ce monde et pour ce que nous avons fait et pas fait non plus. Seigneur, louange et gloire à toi.
Amen.
Oh Seigneur, nous voulons prendre cette décision d'être fidèles à chercher notre rendez-vous avec toi chaque jour, selon nos possibilités. Mais Seigneur, nous avons des décisions à prendre. Louange et gloire à toi. Que chacun puisse prier à sa place, devant le Seigneur, dans un recueillement intérieur, et dire au Seigneur ce qu'il a besoin de lui dire. Alors que je parle, vous pouvez simplement tourner vos cœurs vers le Seigneur et répondre à son appel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous t'aimons, mais nous ne voulons pas seulement t'aimer en parole, nous voulons t'aimer en acte aussi. Garde-nous d'être des pharisiens hypocrites qui servent Dieu par des paroles, un cœur partagé, imbu de lui-même. Nous voulons offrir nos corps en sacrifice vivant. Merci Seigneur. Oh, et le Seigneur, lui, qui est fidèle, beaucoup plus que nous, va toucher quelque situation au milieu de nous. Le Seigneur sait qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a un abcès très douloureux près de l'estomac, qui te fait tant souffrir. C'est intérieur. Et cet abcès va éclater. Alléluia. Parce que le Seigneur met son doigt dessus et qu'il le fait éclater. Alléluia. Merci Seigneur pour cet abcès qui s'écoule au nom de Jésus. Et maintenant, tu ne souffriras plus de ton estomac. Alléluia. Tout reprendra sa place et tout rentrera dans l'ordre, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur touche quelqu'un d'autre encore parce qu'il est présent. Il vient confirmer sa parole, ce qui vient d'être dit, par des attouchements de guérison. Il y a quelqu'un qui souffre d'un cœur qui s'emballe et bat parfois beaucoup trop vite. Et cela crée en toi de l'angoisse qui encore aggrave la situation. Je mets ma main puissante, dit le Seigneur, qui va calmer ton cœur, ce qu'aucun médicament n'a pu faire jusqu'à ce jour. Merci Seigneur.
Amen.
Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu es le Dieu de l'impossible.
Amen.
Et rien n'est impossible. Merci pour toi. Merci Seigneur de calmer ce cœur qui bat la campagne. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Et quelque chose de précis que le Seigneur m'a donné, qui est merveilleux. Toi qui es frappé de stérilité, c'est moi, te dit le Seigneur, qui donne de la vigueur à ce qui est faible en toi. C'est moi qui fais parvenir à maturité un fruit. Ainsi, je le fais, dit le Seigneur, pour tes entrailles. Alléluia, Seigneur. Ô Seigneur, merci pour cette personne qui souffre de cette infirmité, de stérilité. Seigneur, louange à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie. Et c'est toi qui fais mûrir un fruit. Seigneur, tu poses ta main sur ses entrailles. Et tu permets qu'elles enfantent maintenant. Louange, gloire et puissance à toi. Alléluia, nous t'adorons. Adorons un tout petit peu le Seigneur. Deux minutes. Levons nos mains vers le Seigneur. Adorons-le parce qu'il est tout puissant. Le Dieu invisible, mais néanmoins présent. néanmoins merveilleux, néanmoins compatissant. Ô Seigneur, nous t'adorons, nous nous abaissons devant toi, majesté divine, alléluia Seigneur. Ce qui est impossible au corps humain, tu peux le faire prendre naissance. Seigneur, louange à toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Tu as beaucoup prié. Et le Seigneur t'a exaucé. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Amen.
Amen.
Merci, Seigneur.